Esprit Livre, Isabelle Godin-Rouillard.
Bonjour à tous, nous sommes presque en direct du 34e printemps du livre de Montaigu. Il y a foule dans le chapiteau principal. L'année dernière, il y a eu 35 000 visiteurs. Je pense que cette année, le record va être battu. Il y a des auteurs prestigieux et j'en ai un en face de moi. Ce n'était pas prévu. Donc on va le faire comme ça, sans filet.
Exactement.
Bonjour. Alors vous allez peut-être deviner qui est en face de moi grâce
qui
à cette voix. Qui est-il ? Bonjour Philippe Doreton.
Bonjour.
Je suis très très honorée de vous avoir en face de moi. C'était totalement imprévu.
Mais c'est ça qui est chouette.
C'est ça qui est chouette. Et lorsque votre charmante et très professionnelle attachée de presse est venue me voir tout à l'heure, je lui ai dit que j'avais l'habitude de parler des livres que j'avais lus. Et aujourd'hui, vous êtes au Salon du Livre pour parler de votre dernier roman qui s'appelle Un cœur outragé. Et je ne l'ai pas lu et je m'en excuse auprès de vous. Donc je suis très mal à l'aise.
C'est pas
mais
grave.
Mais on va le faire. Mais je tiens à être honnête avec vous et avec nos auditeurs.
Mais vous avez tout à fait raison.
Vous allez me donner envie et vous allez donner envie à plein d'auditeurs de lire votre livre. Et puis surtout, vous êtes présents sur le salon aujourd'hui, demain et lundi.
Dimanche.
Dimanche. Oui. Donc, oui, pardon. Je suis décalée. Donc aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche, donc pendant tout le salon. Donc de nombreux Vendéens vont pouvoir venir et venir vous voir, parler de votre livre. Vous m'en parlez de votre livre ?
Volontiers.
De quoi il s'agit ?
Un cœur outragé, c'est le roman d'un acteur qui pourrait avoir beaucoup de points communs avec moi, mais qui a aussi beaucoup de différences. C'est un acteur qui approche de la soixantaine, on va dire, et qui, après un démarrage assez fulgurant, dès son premier film, il a eu un César, il a été porté un peu au nu comme ça, et puis finalement, ça n'a pas tenu ses promesses. Le cinéma s'est un peu détourné de lui, et au point qu'il ne tourne plus du tout. Et il en arrive à un point où même sa femme le quitte pour aller avec un ami à lui, producteur. Et donc, ils se sont doublement trahis par le cinéma. Non seulement le cinéma ne l'aime plus, mais le cinéma, il estime que le cinéma lui a volé sa femme aussi. Et donc, il est en train de sombrer complètement. Mmh. Il vit seul avec sa fille, qui est une étudiante en littérature.
Oui.
C'est un petit détail important, parce que c'est grâce à elle qu'il va rencontrer, qu'il va croiser Romain Gary.
Oui.
Et un soir après le théâtre. Et puis, il va croiser la vie de Romain Gary par ce que lui en dit sa fille. Et il va découvrir, connaissait un peu l'histoire de Romain Gary, le double avec Émile Ajar et puis d'autres pseudonymes, évidemment, cette histoire de prix Goncourt, mais comme il lit pas, il n'est pas très curieux, il ne lisait que les scénarios qu'on lui proposait, mais comme on lui propose plus rien, donc il ne lit rien. Et donc sa fille va lui donner plein de livres de Romain Gary, et il va découvrir cet auteur, ce qu'il a fait, et une idée va germer en lui d'être le Romain Gary du cinéma français. C'est-à-dire de refaire une carrière sous une autre identité, mais un autre physique.
Et comment est-ce possible ?
Grâce aux effets spéciaux de maquillage. Donc il a, heureusement, parmi ses amis, un ami de longue date qui est un maquilleur d'effets spéciaux. Et ensemble, ils vont travailler à lui faire une autre tête. Et ça va marcher dès le début. C'est-à-dire que grâce à un autre ami... Une seconde carrière s'ouvre à lui, mais lui, ce qu'il voulait, en fait, c'était voir si ça pouvait marcher, en fait. De créer l'illusion d'être quelqu'un d'autre. Et de voir comment on l'accueillerait sans savoir que c'est lui. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ce qui a poussé aussi Romain Gary à écrire sur des pseudonymes, c'est qu'il voulait
être autre chose que son nom.
Avec une virginité. Mais sa vie était tellement féconde de plein de choses que on ne le lisait plus qu'à travers ce prisme-là de cette vie incroyable, une vie de roman, hein, Romain Gary. Et donc il voulait se retrouver une virginité comme ça. Et lui c'est pareil, sauf que l'être qu'il va créer est formidable et va avoir un succès foudroyant tout de suite, au point que ça va le gêner. Il va se sentir dévoré par lui, ne plus du tout exister, parce que pour le faire vivre, il faut disparaître.
Donc sous
le silicone, il a créé un monstre, exactement. Une sorte de golem, comme ça, incontrôlable. et il va falloir s'en débarrasser. Voilà. Donc
c'est toute l'intrigue.
C'est toute l'intrigue. Et c'est une fable sur le cinéma, une fable qui repose sur un fantasme réel. C'est-à-dire qu'en ayant discuté tout au long de ma vie de comédien avec des maquilleurs, notamment un ami à moi qui est maquilleur aussi d'effets spéciaux, qui m'a servi de modèle pour mon personnage, on s'est aperçu que c'était un fantasme en fait d'acteur. Mais finalement, l'acteur, même les acteurs de composition comme on dit, ne veulent pas disparaître. Ils veulent qu'on les regarde disparaître à travers un personnage, dans un personnage, dans une autre psychologie. Mais ils ne veulent pas disparaître totalement. Tandis que lui, il franchit le Rubicon, en fait. Il accepte, contraint et forcé, de toute façon, il n'a pas le choix, mais de disparaître totalement au profit d'un autre. Mais comme c'est un bon acteur au départ, eh bien, cet être inconnu qui débarque dans le milieu du cinéma français a une solidité d'acteur. Et bon, après, je laisse au lecteur le soin de découvrir, mais ils en ont fait un berger de Provence, ami d'un producteur, parce qu'ils se sont dit, pour le premier film, il faut que le producteur soit au courant. Et ça tombe bien, dans ses amis, il a un vieux producteur qui, de temps en temps, fait des films maintenant pour s'amuser, après en avoir fait plein. Et qui trouve l'idée formidable et qui se dit, mais ça tombe bien, j'attends une réponse de Jean Dujardin et de Marion Cotillard, et s'ils disent oui, c'est une comédie. Il y a un petit rôle de psy, t'as une scène avec Jean Dujardin, une scène avec Marion Cotillard, ça prend une journée, mais s'ils disent oui, le film se fait et je te donne ce rôle.
Et ça lui donne visibilité.
Et ça lui donne tout de suite une visibilité terrible.
Ouais.
C'est-à-dire que Jean Dujardin va être absolument émerveillé par le talent de ce berger de Provence qui débarque à Paris, parce que je le fais arriver en bétailière en plus. Enfin voilà, il y a un côté schpoun, il y a un côté, en fait c'est une comédie, c'est une vraie comédie mais cruelle, comme les fables peuvent l'être aussi.
Alors j'espère que les auditeurs vont avoir autant envie que moi de lire votre livre. Vous me parlez on parle souvent des acteurs qui sont tributaires du désir des réalisateurs, des producteurs. C'est un métier, le métier d'acteur fait rêver tout le monde. Et finalement, c'est peut-être pas un métier si facile que ça, parce que dépendre du désir de l'autre. Et moi, ce qui m'intéresse dans votre histoire, c'est qu'il est quitté par le cinéma et il est quitté par sa femme. C'est-à-dire que voilà, il y a le désir du métier, il y a le désir amoureux, enfin la relation amoureuse. Cette vie, elle tient sur le... sa vie s'écroule au moment où il n'y a plus de désir dans sa vie, en fait.
Oui.
Il faut retrouver le désir.
Et lui est en train de perdre même le désir de
continuer.
C'est-à-dire que le théâtre l'a passionné, mais ne l'intéresse plus, en fait. Il n'ose pas s'avouer qu'il voulait être connu. Il voulait être reconnu. Reconnu et connu. Que les gens se... Comme dans la chanson, que les gens se détournent dans la rue, le regardent, etc.
De Bellavone.
Voilà.
Hein, il part tout dans la rue.
Je qu'on parle de moi, que les filles soient nues, etc.
Quel sujet
donc
sur
il,
moi.
Il voulait être une vedette, il voulait être une star du cinéma, mais il ne se l'est pas avoué. Donc il ne s'en est pas vraiment donné les moyens non plus. Il pensait que le talent suffisait. Mais comme je dis, à un moment donné, le cinéma aime le talent, mais il préfère le succès, en fait.
Oui, parce que c'est aussi un milieu d'argent. C'est un business.
Totalement, c'est un business.
Et il faut des têtes d'affiches, il faut des gens bankable.
Même si
quand on ne l'est plus.
Ça n'existe pas vraiment, mais on prétend que ça existe. On prétend que des noms attirent. Alors ça marche de temps en temps sur quelques films, mais c'est rare des gens qui sont bankable toute leur vie. C'est souvent assez circonstanciel, en fait. Donc en fait on utilise beaucoup les gens, on s'en sert dans, on les fait tourner dans plein de films, et après les gens sont lassés, en fait, et se détournent. Mais lui, voilà, il perd même son propre désir, son envie première, cette joie. Et à travers ce masque,
il renaît
et il redécouvre la joie, juste la joie de jouer. Mais une joie de jouer sans avoir peur de lui, de ses limites, puisque lui n'existe plus sous le...
Une joie qui est pure, il a plus peur.
Donc il a plus peur, et il rayonne. Mais il met longtemps à se demander pourquoi. Mais oui, c'est ce que j'ai écrit dans un autre livre, L'être un jeune comédien.
Oui.
C'est de dire justement que le plus gros problème de l'acteur, c'est lui-même en fait. Mm. Et qu'il faut arriver à s'oublier. Et s'oublier, ce n'est pas facile. Mais quand on est jeune comédien, on croit qu'on est à la fois le problème, mais la solution au problème. Mm. Moi, j'ai envie de dire, on n'est ni le problème, ni la solution. Mm. Le problème, c'est le texte qu'on a à jouer. C'est tout. Il faut se mobiliser là-dessus. Et tout le reste découle de ça. Donc arriver à retrouver une liberté en se mobilisant sur le texte. Et c'est ça que je prône. Mais lui, il ne l'a pas théorisé comme ça. Donc,
Vous l'avez envoyé à tous vos collègues acteurs, comédiens
Certains, notamment ceux que j'ai cités. Je l'ai envoyé à Marion Cotillard et à Jean Dujardin.
Ils vous ont répondu ?
Pas encore.
Non. Parce que c'est quand même... Je le lirai vraiment, avidement. C'est une sorte de psychanalyse quand même du comédien.
Mais il y a de ça.
On m'a
déjà répondu ça, notamment des lecteurs.
Il y a un dédoublement de personnalité, il y a une sorte de libération, de renaissance.
Oui. Il y a plusieurs thématiques assez formidables.
Et comment... Alors, c'est une question que justement, je veux lire les livres parce que j'essaie de ne pas poser des questions bateau, mais comment... Philippe Torreton, avec toute la carrière toute votre carrière que l'on connaît, on a besoin, parce que je pense qu'écrire au niveau où vous le faites, c'est pas ça va au-delà du plaisir, c'est un besoin. Comment on a besoin de raconter une telle histoire ?
Comment on a besoin de raconter
Est-ce que c'est un besoin ? Peut-être que je me trompe. Hein. C'est peut-être une question très très bête.
Non, il n'y a pas de question bête.
Comment ça vient ?
Ça. Moi, c'est...
Parce qu'elle n'est pas anodine, votre histoire.
Non.
Et vous avez plein d'histoires à raconter.
J'ai...
Mais celle-ci, elle est très particulière quand même. Elle fait écho peut-être à une trajectoire personnelle ou à une réflexion personnelle.
Il y a de ça aussi. Je pense que déjà, je serais... comment dire ? Je serais un comédien uniquement focalisé sur mon métier. Je pense que je n'aurais pas rencontré l'écriture, en tout cas. C'est que ce métier me remplit, mais il reste de la marge.
Oui,
et cette marge d'expression,
ça ne vous suffit pas. Vous avez besoin d'autres espaces.
Non, parce que quand on est comédien, on est toujours entre deux désirs. L'auteur, le metteur en scène... et le réalisateur, quand c'est un cinéma, ou la réalisatrice, on est toujours go-between, en fait, entre une écriture et quelqu'un qui pose un regard sur cette écriture. Et nous, on doit trouver son chemin. Quand je m'installe chez moi, à mon bureau, pour écrire, je suis enfin seul. Enfin seul. Alors, ça fait peur, mais libre. Je suis libre de tout dire, de tout écrire, de me laisser aller. Et j'adore, moi, mon métier de comédien. Et je m'en suis pas lassé du tout.
Mais il est très contraint.
Mais il y a de la contrainte. Mais dans l'écriture aussi, il y a de la contrainte. Mais c'est une autre contrainte.
C'est la vôtre.
Mais au moins, c'est la mienne.
C'est-à-dire que les problèmes que je rencontre... D'un producteur, d'un budget, d'un scénario...
Voilà, les problèmes que je rencontre quand j'écris sont les problèmes que je me suis posés. Donc, j'avais qu'à pas me les poser, en fait. Et c'est surtout un territoire de liberté génial. Génial. Je ne crois pas qu'il y ait plus fort que l'écriture pour goûter ce parfum-là de liberté. Quand je commence un roman, je peux tout dire, mais réellement. Alors après,
vous êtes un homme qui a une parole assez libre. Vous prenez position, vous vous exprimez, vous écrivez des tribunes, vous y participez. Vous êtes engagé au sens noble du terme. Vous êtes un citoyen. Vous avez écrit des choses très fortes, voilà. Mais il faut encore. L'écriture, c'est encore autre chose, c'est encore un autre domaine. C'est un autre terrain.
C'est un peu le même terrain, hein. C'est que.
Vous avez besoin de dire.
En fait, non, c'est pas forcément un besoin de dire. C'est que la vie des autres m'intéresse. Je suis un passionné des gens, en fait. J'aime les gens. Dans ce qu'ils ont de terrifiant et dans ce qu'ils ont de magnifique, les gens inconnus, les gens connus, j'aime l'être humain. Parfois, il me désespère.
Oui.
On est d'accord.
On est d'accord.
Mais parfois, il m'enchante aussi. Et donc, je trouve qu'il y a des trésors partout. C'est pour ça que j'ai voulu écrire Mémé, par exemple.
Il est formidable.
Ma Mémé, elle n'a pas sauvé la France. C'est pas une...
Mais il y a des milliers de mémés comme la vôtre qui ont tellement à... Enfin, c'était ce qui était très touchant dans votre livre. C'est votre mémé, on a tous, enfin beaucoup, et je me souhaite d'avoir une mémé comme celle-ci. Ça faisait écho tellement à des choses très, à la fois très universelles, très intimes. Alors c'est bateau de dire ça, mais en littérature, quand on touche à ça, c'est-à-dire que vous racontez votre mémé à vous, dans toute sa simplicité, dans toute son humilité, et en même temps, elle est tellement universelle, votre mémé.
C'est
et
ce ça, que c'est je rencontre.
C'est fantastique. Et je, enfin, je lirai votre livre, mais... Je pense que ça va parler à beaucoup de comédiens et beaucoup de... Peut-être même au-delà de ça, enfin, on joue tous un rôle.
Ah oui, mais déjà je peux dire que ça touche au-delà du cercle des comédiens. Un cœur outragé s'adresse à tout le monde.
Oui.
Et justement, il permet aussi à un public, un lectorat qui ne serait pas familier à l'univers du cinéma, d'opérer une vraie plongée dans le milieu du cinéma. C'est pour ça que j'ai mélangé le vrai et le faux.
Ouais.
J'ai mélangé ce qui m'est arrivé à ce qui lui arrive à lui. J'ai inventé des choses. Parfois, je lui attribue des anecdotes qui me sont arrivées. Mm-hmm. Alors après, y a tout le jeu de savoir si c'est vrai,
vrai ou
si
faux.
C'est pas vrai,
oui,
etc.
Parce qu'il va fatalement y avoir une projection sur vous.
Ah mais évidemment. Et cette projection, je l'ai souhaitée.
Mm.
C'est une... j'aurais pas été comédien, je pense que j'aurais peut-être eu l'envie d'écrire quelque chose qui ressemble à ça, mais je l'aurais placé dans un autre milieu.
Mm-hmm.
Donc, je fais exprès de faire penser à moi par moment. Et je m'interroge aussi, moi-même, sur ce que j'ai réussi ou pas dans ma carrière jusqu'à présent.
Mm-hmm.
Même si j'aime pas tellement le mot carrière, mais dans mon parcours, en tout cas. Et bien sûr, de toute façon, on est... Le lecteur numéro un d'un livre, c'est l'auteur lui-même du livre, je crois. C'est, on s'écrit à soi-même.
Mais je vous écoute et je me dis que, sans être comédien, l'envie de recommencer à zéro, de savoir... Vous êtes cadre sup, êtes cadre sup, ou jardinier, ou boulanger, et de savoir que vous pouvez être... repartir à zéro, savoir si vous pouvez être... aimé par votre travail, on parle du travail, pour les bonnes raisons.
Et j'ai l'impression
je pense que c'est une question, c'est une problématique de vie beaucoup plus courante. Bon, là, vous la racontez à travers le prisme de la vie d'un comédien, mais je pense que n'importe quelle personne qui est dans sa vie, qui travaille, et même dans une vie de famille, peut se dire, est-ce que je recommence? Est-ce que si je repartais à zéro, je plairais à ma femme de la même façon? Ou que mes enfants m'aimeraient de la même façon?
Ouais.
Ou que mes collègues aimeraient travailler avec moi de la même façon, est-ce que je serais aussi bon dans ce que je sais faire? Enfin, je trouve que ça, il faut élargir le... C'est moi, ça me donne envie, en tout cas, déjà, d'élargir le champ, de se dire, il y a toujours un moment de sa vie où on se pose des questions, on se dit, voilà, j'en suis où? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien?
C'est ce qu'on découvre dans le monde du travail en ce moment, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une plus grande mobilité qu'avant. Au début, les gens subissaient cette mobilité, mais maintenant, c'est le patronat qui l'a subi. Les gens n'ont plus envie, forcément, de faire toute une vie dans une entreprise, dans une administration, dans un métier particulier.
On est responsable des ressources humaines.
Voilà. Et ce désir de changer, c'est finalement, c'est faire reset avec plein de choses. Alors bien sûr, on ne change pas de nom, on ne change pas d'identité, mais quand même un petit peu...
Un désir de changement de vie
j'ai rencontré une femme à la fin d'une pièce de théâtre il y a quelques années, et qui m'a dit, voilà, j'ai changé de vie à cause ou grâce à vous, suite au film de Bertrand Tavernier qui s'appelait « Ça commence aujourd'hui ». Elle me dit, j'étais cadre dans une banque, je gagnais relativement bien ma vie, mais je sentais que j'étais arrivé au bout de quelque chose. J'ai vu ce film, j'ai pleuré, j'ai démissionné, j'ai fait l'IUFM, maintenant je suis institutrice, j'ai divisé mon salaire par 3, mais je sais pourquoi je me lève le matin.
Ça a du sens.
Et je pense que ça, ce besoin qu'il se passe quelque chose dans nos vies, d'être d'être au cœur de quelque chose, c'est répandu chez tous nos contemporains, en fait.
Oui.
Et là, bah, j'ai poussé le bouchon assez loin,
oui,
dans ce désir-là, puisqu'il va même jusqu'à changer de physique. Mais cette envie de voir, d'être reconnu aussi pour son vrai talent, de ne pas avoir une étiquette d'acteur qui marche moins bien. Mais regardez-moi, je suis toujours un bon acteur. Mais c'est parce que c'est vos yeux me regardent comme un has-been.
Mais je... Alors c'est les yeux, puis ça peut être un système aussi. Hein,
et un système, bien sûr.
Vous êtes dans un monde, le monde du spectacle, est un monde où on consomme de l'acteur, du comédien, où tout à coup on est en haut de l'affiche, et puis tout à coup, pour une raison X ou Y, on redescend. C'est un métier difficile, enfin c'est un métier qui fait rêver, mais dont les coulisses sont extrêmement difficiles et sûrement humainement douloureuses.
On s'en aperçoit en ce moment avec tout ce qui se dit sur le métier, problèmes d'abus.
Le rideau se lève.
Oui, enfin, mais on s'en aperçoit en ce moment dans avec cette parole qui se libère enfin dans le cinéma par rapport aux abus, à la domination d'un être sur un autre, etc., de cette emprise-là. J'en fais écho aussi dans mon roman, puisqu'à un moment donné, il cherche à se débarrasser, à détruire un peu le personnage qu'il a créé et qui marche trop bien. Donc il va se mettre à mal se comporter sur un tournage sous le masque. Il va le rendre moins sympa. Et je ne vous dis pas jusqu'où il va aller.
Vous ne dites rien.
Mais il a un tel succès, son golem, qu'on lui pardonne, même ses excès. Voilà.
On a un peu le sujet.
Je vous laisse deviner à qui ça peut faire penser.
Bien sûr. Et vos propos me font penser, font écho à ceux aussi de Judith Godrèche. Moi, j'ai beaucoup aimé sa série sur Arte, Icon of the French Cinema. C'est important. Le cinéma a toujours fait rêver. C'est une usine à rêve, le cinéma. Et en même temps, c'est quand même très très intéressant de connaître aussi les coulisses, le prix à payer surtout, par rapport à des jeunes qui peut-être veulent être acteurs, comédiens, qui vont se lancer dans cet univers. Bon, après, c'est aussi valable dans plein d'autres catégories professionnelles. Hein. Donc ça, c'est un gros reset à faire d'une façon très générale. Mais moi, ce que je trouve intéressant, et vous qui prenez position assez régulièrement, vous dites quelque chose de très intéressant, c'est que voilà, on est dans un monde. Vous avez écrit Mémé, votre Mémé, elle ne s'est pas posé la question en milieu de vie de savoir si elle allait changer de vie. C'était comme ça.
Oui.
À notre époque, on se pose tous à peu près la question. C'est intéressant que votre livre justement tourne autour de ce sujet-là. Et vous l'expliquez comment vous avez parlé du monde, vous avez parlé de l'être humain qui peut être très bon et aussi très, très mauvais. Comment vous analysez ce besoin, un moment de se poser, de se dire c'est plus pour moi ou j'ai envie de faire autre chose. On n'a jamais autant parlé de gens qui font des reconversions, des choses comme ça. Comment est-ce que ça fait écho à votre travail, à votre réflexion, à votre écriture, à l'écriture de ce livre?
Ça, je ne suis pas très introspectif de d'où viennent les choses chez moi, pourquoi je me suis mis à écrire. Je crois que l'oralité du théâtre m'a poussé à écrire, je crois ça. Enfin, j'en ai même la quasi-certitude. Mais vous savez, quand vous disiez que pour ma mémé, par exemple, elle ne s'est pas posée de questions en milieu de vie,
je ne sais pas, elle s'en est peut-être posée.
Mais je crois que tout le monde se les pose.
Oui.
Moi, je me souviendrai toute ma vie d'une partie de Scrabble avec elle, et puis elle me dit « Oh, j'aurais bien aimé faire de la musique. » Voilà. Et ça m'a bouleversé. Je crois que cette envie d'ailleurs, cette envie d'autre chose, d'une autre vie possible. Alors bien sûr, on se l'enfouit, puisque c'est tellement pas possible. Donc, c'est comme la fable du renard et des raisins de La Fontaine. Bon, il ne peut pas les atteindre, donc c'est qu'il ne devait pas être mûr.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être socialement autorisé, alors que ça ne l'était pas pour la génération. J'ai une grand-mère qui a 100 ans, donc une mémé aussi.
Ma grand-mère n'a pas épousé l'homme qu'elle aimait.
Oui.
Voilà. Ça, c'était la France de ce premier quart du XXe siècle. Une femme ne pouvait pas forcément, pas tout le temps, mais en règle générale,
c'était
non.
C'était des mariages de raison. Hein.
Des mariages de raison. Terres, hein. Voilà. Pour pas justement, exactement, rassembler les terres, ne pas diviser, etc. Oui. Et donc, non, c'est qu'on a, on a mis des étouffoirs sur les vies.
Mais
et moi, justement, si j'écris, c'est peut-être...
L'être humain, il a une volonté, en tout cas, enfin, ça peut être étouffé, mais qu'au fond de lui, il y a forcément le questionnement du changement, en fait.
Mais bien sûr, ouais. Bien sûr. On rêve d'imprudence. Et c'est Brel qui disait ça, le monde sommeille par manque d'imprudence. Mais au fond de chacun, je suis sûr qu'on fermerait les portes de ce salon et je m'entretiens avec chaque personne, j'arriverai à découvrir le rêve secret de chaque personne. Parfois, ça prendrait un peu de temps à accoucher, mais je l'obtiendrai, ce rêve. Je le sais, il existe en chacun de nous. Mais on a mis des couches, on a mis des on s'est protégé. Parce que ça fait mal de réaliser que la vie qu'on mène n'est pas celle qu'on aurait secrètement rêvée.
Alors c'est très émouvant ce que vous dites, ça me touche beaucoup. C'est très émouvant et j'espère vraiment qu'il va y avoir de très 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 nombreux visiteurs à venir vous voir, à vous livrer un tout petit peu de leur rêve secret parce que c'est décisif dans une vie, c'est très important.
Ah ben, je crois, oui. Ouais.
En tout cas, je vous remercie beaucoup, Philippe Torreton. Je vais lire vraiment avec beaucoup de cœur votre livre. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré, c'était absolument pas prévu.
Et
c'est ça qui est chouette, voilà, pour conclure cette émission. C'est ça qui est chouette, je vous souhaite un très 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 bon salon. Vous allez rencontrer des lecteurs formidables. Vendée est un super territoire avec des gens extraordinaires. Et je vous remercie beaucoup de votre passage dans ma petite émission, très modeste, Esprit Livre sur Ligue Radio. Voilà. Merci Philippe.
Merci.
À bientôt.
Beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Prosternera devant moi des conseils.